allons parler des peuples autochtones et parler aussi du bonheur national brut. C'est cette, cette doctrine, on va dire, qui est développée au Bhoutan, ce petit royaume de l'Himalaya. Pour en parler avec nous, Christian Schuttel, vous êtes maire de Jonvry, dans l'Essonne. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Avec nous également Sophie Bayon de l'association Survival, Survival, je ne sais pas comment on prononce à l'anglaise.
Voilà, Survival,
Survival. Survival International France.
Exactement.
Bienvenue, bonjour.
Merci, bonjour.
Et puis avec nous aussi pour en parler Frédéric Bénaud de Fréquence Terre. Fréquence Terre qui anime donc cette, cette journée de débat et ces débats toute la durée du salon Planète Durable sur le stand de féminin-bio.com. Alors nous en parlions à l'instant, nous allons parler des peuples indigènes et du bonheur. On va commencer par vous, Christian Schuttel. Vous êtes allé au Bhoutan, c'est une expérience très récente, vous y êtes parti au mois de février, donc c'était il y a deux mois.
À peine deux mois.
À peine deux mois. Pourquoi partir au Bhoutan?
Vaste débat. Je crois parce que si on est un peu voyageur, on part tous à la recherche, c'est pas une formule. Le problème, c'est que je le sens comme ça. On passe tous à la recherche d'une espèce de paradis perdu, de la vallée perdue, du Shangri-La, du reste de l'Atlantide. On est tous à la recherche d'une espèce d'authenticité, du pas vu, de l'inconnu et la sensation qu'ont dû avoir les gens qui ont améri la première fois à Tahiti en disant « voilà un monde à part ». Et je crois qu'on est dans nos voyages, on cherche toujours un peu ça, quoi.
La recherche de l'inconnu.
Plus que l'inconnu, de l'authentique, tout d'un coup de ce qui a été dépouillé de notre civilisation.
Alors pour préciser, le Bhoutan, c'est un petit royaume qui est perdu, hein, on peut le dire, une vallée perdue dans l'Himalaya.
Oui, alors le royaume du Bhoutan, c'est tellement perdu que les géographes n'en ont pas fait de carte jusqu'en 1775 ou 1800, enfin, c'est dire qu'à chaque fois, ils le confondaient avec le Tibet. C'est une vallée un peu folle qui fait 150 km de long, un espèce d'immense escalier qui part à 150 mètres d'altitude au niveau du Bangladesh, où là, il y a des crocodiles et des rhinocéros, et qui, en 150 km, arrive à 7000 mètres d'altitude, et où il y a le léopard des neiges et les yaks. Donc, en 150 km, un immense escalier où on passe de la jungle à très, très froid et très, très haut.
Comment vous avez eu vent de pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré chez eux? Vous les avez connus comment? On part pas au hasard, on se renseigne en général, on prépare son voyage. C'était quoi, une brochure de l'office de tourisme?
Non, je suis un peu voyageur.
Baroudeur, hein, peut-être, non?
Peut-être un peu. Et depuis l'âge de 16 ans, je voyage tout seul. Puis là, je pars avec des copains pour monter des expéditions comme ça. Et que c'est vrai que ça faisait des parties pour moi des mythes. Parce que Le Bhoutan, c'est la vallée perdue, c'était un mythe qui est très fermé depuis très longtemps. Ils n'accueillent pas le tourisme en sautant de joie, pour en parler. Et donc j'avais très très envie, mais ça coûte très 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 cher le Bhoutan, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on vienne. Donc c'est un pays qui est difficile à accéder, même économiquement.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui est cher ?
Ça fait partie du bonheur national brut dont on va peut-être parler.
Bien sûr, on va y venir. Mais
ils considèrent que le tourisme...
C'est quoi? C'est un droit d'entrée?
Tout
c'est...
à fait.
Ah oui, il y a un droit d'entrée dans leur communauté.
Tout à fait.
Ah oui, d'accord. Donc on va peut-être en reparler, effectivement.
Ils considèrent que le tourisme est une forme de pollution. Et quand on voit le Népal à côté, par exemple, et les millions de poubelles sur les sentiers des trekkers, on comprend parfaitement ce qu'ils entendent par... forme de pollution au niveau pur, je pollue parce que je balance mon sac plastique, plus une vraie crainte que leur culture et leur sens de vie soient troublés par, on a le droit de citer des marques, par McDo, Quick et
d'accord.
Et tout le
chantier. Alors on va revenir quand même à la première question, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez pris connaissance et que vous avez voulu rencontrer. Alors apparemment vous avez payé cher pour y aller, c'est-à-dire qu'il faut être motivé,
faut se mettre un petit... Il y a une taxe de séjour, je crois, autour de 300 euros par jour.
Voilà,
c'est enfin, ça,
150.
C'est
150,
ça,
mais c'est pas mal.
Qu'il faut payer. D'accord. Donc comment vous les avez repérés? C'était le mot bonheur c'était...
Non, c'est parce que Je lis beaucoup et qu'il y a 5-6 ans, j'avais identifié effectivement la démarche sur le bonheur national brut, que j'arrivais de Birmanie des tribus Chan de Birmanie, où on n'était pas très loin d'ailleurs.
Oui, pas très loin.
Et que c'était les mêmes bouddhistes et que ça m'intéressait de... Tout d'un coup, cette vallée où personne n'allait m'attirait plus que Phuket.
C'est dans une vallée ?
C'est entre deux montagnes, en gros. Hein, c'est entre deux montagnes et ça monte comme ça, tout droit.
Alors, le bonheur national brut, vous en parliez, c'est le mot d'ordre au Bhoutan. C'est une sorte de mouvement qui mène tout le pays.
Alors, c'est très curieux parce qu'il a fallu, pour nous, réfléchir en creux. Parce que pour eux, c'est naturel. Enfin, en tout cas... Dixit, parce qu'après ça, on peut toujours discuter est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais c'est naturel. Donc, ils n'en parlent pas, ils font. C'est ce que disait un de vos intervenants tout à l'heure à propos des Quechua. Ils font.
Alors, avant de raconter comment ils vivent, on a un extrait sonore. Je voudrais aussi vous demander, pour qu'on finisse de planter le décor, ça représente une population de combien de personnes, le Bhoutan ?
2 millions d'habitants.
Ah, quand même, c'est grand. Il y a plusieurs villes.
Il y a plein de petites villes et beaucoup de gens qui vivent dans la montagne.
D'accord. Dans une vallée avec des montagnes de chaque côté, c'est ça ?
Oui.
Et tout le peuple du Bhoutan est autour. Cette vallée.
Ils vivent dans des villages et dans des villes un peu plus grandes. Il y a en gros 7-8 vallées majeures. Avec ce qu'ils appellent des forteresses qui défendent ces vallées, qui leur ont assuré leur indépendance, puisque c'est le seul peuple au monde qui n'ait jamais été envahi et qui n'ait jamais été occupé.
D'accord.
Pas de protectorat, rien du tout.
La ville principale ?
Thimphu.
Thimphu, c'est quoi ? C'est la capitale du Bhoutan ?
La capitale du Bhoutan.
Très bien. On va écouter un reportage.
Un reportage qui a été diffusé sur France 2, c'était en 2008. C'était juste avant les premières élections, le premier scrutin, quand le roi a voulu amener la démocratie dans le pays. On écoute.
C'est probablement l'un des pays les moins connus au monde. La terre du dragon tonnerre, ou Bhoutan. Petit royaume himalayen de 800 000 habitants, coincé entre l'Inde et la Chine. Aujourd'hui, on célèbre culture et tradition au festival bouddhiste de Paro, l'un des plus importants. Musique et danse de masques. On y croise peu d'étrangers et pour cause, visiter le Bhoutan est un privilège rare.
Ceux qui ont la chance de venir, tant mieux pour eux, mais on ne peut pas imaginer ici le tourisme de masse, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure. Donc c'est un pays qui devra rester toujours relativement fermé.
Coupé du monde. L'étranger doit dépenser 300 euros par jour, histoire d'éviter les tours opérateurs et maintenir un art de vie, hors du temps. C'est le tir à l'arc et non le football, le sport national. La capitale avait ici son premier et seul feu rouge, mais les automobilistes ont préféré revenir à plus traditionnel. Pas de panneaux publicitaires, vente de cigarettes prohibées, le Bhoutan cultive sa spécificité, mais s'ouvre petit à petit.
Je pense que de nos jours, aucun État, à l'exception peut-être de pays très marqués idéologiquement, ne peut se permettre de rester à l'écart du monde.
Dans les endroits les plus reculés du royaume aujourd'hui, on se refait une beauté. Car l'occasion est historique. Preuve du changement, pour la première fois de son histoire, le pays va voter. Après la télévision en 99, l'internet en l'an 2000, le roi a offert à ses sujets la démocratie.
On a beau dire que le Bhoutan est un pays traditionnel, qu'il va à la modernité presque à reculons. Pourtant, les électeurs dans ce village comme ailleurs voteront de façon électronique par ordinateur.
Voilà, donc c'est un reportage d'Arnaud Miguet diffusé en 2008 sur France 2. Alors, la télé qui arrive en 99, l'internet au début des années 2000, c'est quoi ? C'est un refus de la modernité ou c'est une adaptation lente ?
Alors moi, j'ai pas du tout trouvé un refus de la modernité. J'ai vu les téléphones portables qui valent 10 fois moins cher qu'en France et j'ai vu internet partout et j'ai pu entretenir mon blog durant tout le voyage normalement. Donc... Non, justement, je veux dire que voilà des gens qui utilisent les leviers de la modernité, mais qui ne la refusent pas du tout, il n'y a pas d'obstruction là-dessus. Par contre, dans leur démarche, il y a une volonté farouche de maintien de la culture locale. C'est-à-dire, on ne se fait pas bouffer par la culture occidentale ou par les choix occidentaux, on maintient les nôtres. Et ça, c'est plutôt... C'est plutôt intéressant parce que ça n'a pas l'air imposé. Comme partout, aussi bien chez les Lacandons au Chiapas qu'ailleurs, quand ils vont en ville, ils peuvent mettre leurs jeans, les jeunes. Mais sur les autres périodes, ils sont en tenue traditionnelle.
C'est signe quand même d'une identité forte, certainement, dans le pays. C'est une volonté qui a été insufflée. Il y a un roi, c'est ça. On entendait à la fin du reportage qu'ils allaient passer à la démocratie et voter par Internet. Il n'y a pas de risque.
Il y a un roi rigolo, je trouve. Il y a un roi qui est plutôt sympa, qui devrait donner des leçons à peu près à tous nos démocrates, quelque part en tout cas. C'est un roi qui, à un moment, a dit, il y a maintenant une vingtaine d'années, il a dit... Il a fait Oxford, le roi en question, quand même. Hein. Il n'est pas resté...
Oui, c'est pas un imbécile. Hein.
C'est pas parce qu'on a...
C'est selon nos critères, excusez-nous. Oui. Justement.
Mais le roi, il a dit, écoutez, j'ai fait le compte, c'est pas forcément les pays les plus riches qui sont les plus heureux. Donc, ne basons pas uniquement le développement économique comme produit du bonheur. Et il a commencé à baser là-dessus. Ensuite, il a dit, écoutez, franchement, la monarchie pure, et le servage... C'est un peu ringard, on passe en démocratie. Ça a provoqué des manifestations dans les rues de Thimphu et de Paro parce qu'on voulait garder le roi. Mais il a dit, je reste, mais on fait une monarchie constitutionnelle. Et une fois qu'il a installé tout ça, il a dit, à 60 ans, c'est un peu ringard de rester au pouvoir. Je passe le pouvoir de roi à mon fils qui en a 30. C'est vrai que c'est des leçons de démocratie pour nous tous qui ne sont pas aussi évidentes que ça.
Oui. Et... On connaît le problème belge, par exemple.
On en connaît d'autres. Et moi, j'étais très frappé à la capitale. Quand on arrive forcément par le haut de la vallée. Et vous avez la forteresse, qui était le lieu administratif, qui est gigantesque. Gigantesque. Un monstre. Derrière, l'Assemblée nationale, qui est un monstre. Et la maison du roi, je vous promets qu'elle est plus petite que ma maison à moi.
Ah oui, d'accord.
Elle est à côté. Et en réalité... Moi, je n'ai pas vu nulle part, et on l'a toujours travaillé en creux dans ce voyage, on n'a pas vu les signes extérieurs de richesse ou du pouvoir qui sont habituels à nos pouvoirs, à nous, et même à nos démocraties. Quoi. Les ordres de la République, là-bas, il n'y a pas d'ordre de la monarchie.
Vous venez de nous faire passer, à Grégory et à moi, un livre d'images.
Ouais, c'est les photos que j'ai faites.
Ce sont vos photos, ouais. D'accord. Donc on voit quand même, il y a des grosses constructions. C'est ça, les palais dont vous parlez?
Les forteresses.
Ce sont les forteresses. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
C'était les forteresses qui servaient à la fois aux moines et aux soldats pour protéger les vallées. Mais jamais les lieux de... Le roi aurait pu, pour la circonstance, s'occuper une forteresse pour son logement. Je vous assure, c'est une maison... plutôt sympa, plutôt grande, au bord d'un jardin qu'on longe quand on va visiter la forteresse. On voit les mecs en train de secouer le tissu à la fenêtre. Et il y a un brave type en tenue, en jupette, qui nous dit « Prenez pas trop de photos, soyez gentils ». On est très, très loin ou de la Maison-Blanche ou de l'Élysée. Quoi.
Alors pour décrire un petit peu quand même l'ambiance des photos, hein, on est, je crois, vraiment sur le Tibet, sur le Népal. C'est ce genre de construction.
Des paysages très montagneux avec des temples.
Des constructions blanches, des espèces de temples qui sont donc des forteresses. Voilà.
Donc, vous parliez du roi qui ne voulait pas privilégier la richesse. C'est vrai que chez nous, on a toute une batterie d'indicateurs, notamment le PNB, le produit national brut. Lui, le roi, je crois que c'est il y a une quarantaine d'années, il a lancé le bonheur national brut.
En opposition au PNB.
Alors, en quoi ça consiste, le bonheur national brut?
Chez nous, tout tourne autour de la richesse.
Ouais.
Chez eux, donc, c'est la recherche du bonheur.
Oui, alors...
C'est leur richesse, non?
J'ai l'impression de me faire piéger, là, parce que c'est pas le pays des bisounours, hein.
Oui, mais justement, éclaircissez.
C'est pas le pays des bisounours, mais il n'empêche que...
On va redéfinir le bonheur à travers
alors,
ça.
Alors, ils ont trois piliers pour le bonheur. Le premier, mais là, on va faire rigoler tout le monde, c'est une bonne gouvernance. Ils considèrent que... Il y a une responsabilité des gens à gouverner pour que leurs citoyens soient élus. Ça fait rigoler parce que, par nature, c'est vrai. On n'est pas toujours convaincu partout que ça soit le cas.
C'est pas le cas partout.
Voilà. Ils considèrent que le développement social prime sur le développement économique et que le développement économique doit être respectueux de l'environnement. Pas mal.
Oui, c'est un bon enchaînement logique. Oui, ça paraît, ça se tient en tous les cas.
Oui.
Ah, sur le terrain, ça donne quoi ? Quels sont leurs critères du bonheur alors ?
Et puis je termine. Le troisième pilier du bonheur national brut, c'est préservation de la culture et du patrimoine. Et que si ces trois critères sont pas remplis, on construit même pas une maison.
Mais ça leur empêche pas d'innover. Vous disiez qu'il y avait Internet partout.
Ça empêche pas d'innover, mais par exemple, ils ont aucune richesse naturelle, aucune. La seule richesse naturelle est l'hydrologie. Ils vendent leur électricité à l'Inde. Donc, ils font des barrages. Quand on y était, ils en étaient au deuxième barrage qu'ils ne faisaient pas parce que ça rentrait pas dans leurs critères. Et qu'il allait bouleverser écologiquement deux vallées et qu'il n'était pas question.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on
la seule richesse...
On leur demandait de faire d'empiéter sur leur terre pour faire
des barrages.
Des barrages et eux, ils ont refusé, c'est ça ?
Ben, ils vendent de l'électricité, donc c'est leur seul moyen de subsistance. Ben même là, ils ne le sacrifient pas à l'argent, quoi.
Alors, de quoi vivent-ils ?
Il y avait un truand parisien qui faisait d'une légère soupe le soir. Non, ils vivent... Une, ce sont des agriculteurs. Ils font la culture comme on a au Tibet, en Birmanie, au Népal.
Ça n'a pas l'air d'être une culture très... un secteur très, très généreux en nature.
Je
n'ai
pas mis les photos qu'il fallait, peut-être. Mais
il
y a des rizières.
Ah, quand même, oui.
Il y a des rizières, il y a des choses comme ça. C'est très simple. C'est très simple, sauf que le revenu moyen par habitant, il est quand même 20% au-dessus des hindous qui sont à côté.
Alors comment ils se débrouillent ?
Je crois qu'ils
ont la même monnaie que les Indiens.
Non. Ils ont leur monnaie. Ils n'ont jamais voulu que l'armée indienne mette un pied chez eux.
On paye en quoi là-bas ?
On paye en argent bhoutanais. Tout d'un coup, vous me troublez.
Ah, pardon.
Ma mémoire défaille.
Il n'y a pas un petit centime au fond de la poche qui traîne.
Je l'ai offert parce qu'ils sont magnifiques, leurs billets en plus. Ils ont leur monnaie, ils ont leur armée. Ils ont fait une guerre une fois il y a quelques années. Qui a duré une journée et demie. Il y a eu quand même 3 morts. Il y a un monument pour ça parce que c'était un drame, quoi. C'était un drame national. Bon, on sourit. Voilà. C'est pas bisounours, mais il y a des trucs un peu sympathiques comme ça. On est allé dans une vallée très très lointaine où ils ont par exemple les dernières grues à coups noirs. Voilà un pays qui n'a pas de grands moyens. Ben, pour que les grues ne se mettent pas dans les fils électriques, ils ont enfoui tous les réseaux dans cette vallée pour justement préserver l'environnement.
Je voudrais faire réagir Sophie Bayon.
Le technicien me dit que la monnaie serait le Ngultrum, un truc comme ça.
Des Gultrum, merci.
Des Gultrum. Alors oui, Sophie Bayon de l'association Survival International. Ces quatre piliers du bonheur, est-ce que vous les retrouvez chez les peuples que vous suivez chez Survival? Alors je rappelle la conservation, la promotion de la culture, la bonne gouvernance, la sauvegarde de l'environnement, c'est aussi des piliers de ces peuples.
Je pense que c'est difficile parce que ce sont des cas un petit peu particuliers. On peut difficilement faire une généralisation de la manière dont fonctionnent tous les peuples indigènes dans le monde, mais je pense qu'il y a réellement quelque chose de similaire. On va dire qu'il n'y a pas une recherche de la conservation et de la protection de l'environnement. Je pense que c'est réellement quelque chose qui leur est intrinsèque. Et effectivement, oui, naturel, ça fait pour certains des générations, des siècles, voire même des millénaires qui vivent sur un territoire et qui aujourd'hui est encore riche de toutes ses ressources. Et donc, par là et par la manière dont ils partagent le territoire de manière indivise, donc il n'y a pas non plus une notion de propriété privée, le territoire est collectif. Je pense qu'il y a effectivement pas mal d'éléments qui s'assimilent à ce bonheur national brut. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui menacés et qui ne peuvent pas continuer à vivre de la manière dont ils le souhaitent.
Christian Schuttel, est-ce qu'on peut mesurer le bonheur au bout d'un temps ? Est-ce qu'il y a des indicateurs ?
Alors, non, parce que je crois que ça est ou ça n'est pas. Donc ça me paraît difficile. Et encore une fois, moi, ce qu'on a pu constater, c'est un peu en creux par rapport à nous. C'est-à-dire que là où nous, on avait tendance à être ou agressifs ou énervés, ils ne l'étaient pas trop. Alors c'est vrai qu'ils sont bouddhistes. C'est vrai que, excusez-moi, c'est des détails qui vont vous paraître étranges, mais dans le plus grand hôtel de Thimphu où on était, on me rapporte du linge qu'on avait lavé, je veux donner un pourboire et la dame de ménage me dit, mais attendez, je suis déjà payé pour ça, vous allez pas me payer deux fois. Ça fait partie des trucs étranges, parce que dans tout ce que j'ai vécu dans le monde, j'ai jamais vu quelqu'un me refuser $2, quoi. Sans grossièreté. Donc c'est vrai qu'il a fallu raisonner en creux en se disant, surtout qu'après ça, j'ai redébarqué en Inde après. Quand on arrive en Inde, on voit exactement l'inverse. Et donc c'est plutôt ce creux-là. C'est-à-dire se dire tout d'un coup, c'est vrai que j'ai pas vu de pollution, j'ai pas vu d'énervement, j'ai pas vu d'agressivité, j'ai pas vu de voitures individuelles, ou très très peu.
C'est que des transports collectifs.
Il y a des transports collectifs, etc. Mais tout d'un coup, tout ce qui nous paraît normal à nous, mais n'est pas forcément normal là-bas. Moi, j'étais très impressionné de leur rapport à l'étranger, car il y a une très aimable, très sympathique indifférence. Et c'est génial. Parce que généralement, quand un touriste arrive, il y a des yeux avec des dollars qui s'allument et il y a à la fois de l'envie, à la fois peut-être de la jalousie, de l'envie. Et là, franchement, ils s'en foutent complètement.
Vous n'êtes pas sollicité, on ne vous demande pas de l'argent
Non, mais c'est même pas ça. Par exemple, dans le reportage qu'on vient d'entendre sur Antenne 2, on parle des festivals. Nous, moi, j'avais voulu qu'on y aille au moment du festival de Punaka, qui est un festival qui a lieu au mois de février, qui est extraordinaire. On est allé et ils sont des milliers déguisés, habillés, qui dansent. Il n'y a pas un touriste, donc ils font vraiment totalement ça pour eux. Il n'y a pas une caméra de télévision ou une radio. Donc ils font ça pour eux. Et nous, on était donc, mon petit groupe, exactement pas comme des mouches dans le lait, puisqu'on n'avait aucune importance.
La bête curieuse. Quoi.
Même pas la bête curieuse, non. Rien.
Rien. On vous a ignoré.
Ignoré, c'est génial. Bon. C'est première fois. Non mais c'est cadeau, parce que tout d'un coup, on n'est pas dans le bain.
Un vrai spectateur.
Mais on ne dérange pas.
Ouais.
Ni la notion de déranger, ni la notion de perturber le système. Il existe en lui-même. On a débarqué par accident dans un village où il y avait un concours de tir à l'arc qui est leur grande passion. On s'est retrouvé au milieu de tout ça, qui était plutôt très festif et très sympa. Et quand même, les crétins touristes avec leur appareil photo, leur bob et je sais pas quoi. Et dans une belle indifférence, on a pu traverser tout ça comme si on était des ombres. Et ça, c'était génial. C'est la première fois que ça m'arrive et c'est sympa comme tout.
J'ai envie de rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure en faisant le parallèle avec les peuples primaires de la forêt amazonienne aussi. Est-ce que pour prendre le bonheur comme moyen central de référence, il ne faut pas déjà l'avoir analysé et avoir pris conscience de ce qu'était le bonheur? Parce que là, apparemment, ce qui va faire la différence entre un peuple qui vit dans le bonheur sans s'en rendre compte, c'est qu'il n'y a pas forcément pris conscience. Au bout de temps, ils auraient pris conscience du bonheur. Et ils ont dit qu'il faut qu'on le conserve, non ? C'est un peu ça, la notion ?
Ça ressemble un peu à ça, quand même.
Alors, comment s'y sont-ils pris pour arriver à conserver ce bonheur ? Est-ce qu'ils ont décrit une charte du bonheur ? Comme nous, on a une constitution avec des critères qui disent pour être heureux, point numéro 1... on fait payer 300 euros aux touristes. Point numéro 2, on garde notre habitation. Point numéro 3, la fontaine au milieu du village.
Une sorte de mode d'emploi du bonheur, en fait.
Oui, c'est ça.
Mais, écoutez, d'abord, une sur les touristes. Moi, j'étais très frappé. Il y avait, il ne l'occupe plus maintenant, mais une salle dans l'aéroport de Paro quand on atterrit. L'atterrissage vaut son pesant de cacahuètes. Quand on atterrit, il y avait une salle où le roi du Bhoutan accueillait les touristes pour leur dire... Ne foutez pas tout en l'air en polluant les habitants, respectez leur culture. Et c'est étonnant. Ça commence.
Il y a un briefing déjà.
Il y a un briefing en disant pitié quoi. Et déjà.
Nous on ne le fait que pour ceux qui veulent avoir la nationalité française.
Voilà.
On leur explique un peu comment ça marche.
À peu près. Mais je veux dire que. Et c'est une période où il y avait un numerus clausus de 4000 touristes par an. Donc rien. Aujourd'hui on est passé à 40 000. Mais même 40 000, c'est. C'est pas grand-chose, hein, la ville.
Donc vous êtes un privilégié.
Bah écoutez, oui, je revendique. Je revendique le privilège. Mais donc, c'est des vrais choix. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une construction, il n'y a pas un projet qui ne passe pas à travers une commission ou qui vérifie qu'effectivement, ça ne va pas perturber ni culturellement, ni patrimonialement, ni écologiquement, le dispositif.
Comment est constitué cet organe de décision? Il y a un roi, donc vous nous avez expliqué, on a entendu aussi dans le reportage qu'ils allaient voter, qu'ils avaient mis en place une démocratie, qu'il avait passé le pouvoir à un jeune prince qui est devenu roi à 30 ans. Comment tout ça marche?
Il y a une assemblée nationale, c'est un espèce de, encore une fois, c'est bisounours, parce que imaginez que le parti au pouvoir qui est sorti ultra majoritaire, c'est le parti du bonheur, quand même.
Très bien.
C'est pas mal.
Je demande un parti du bonheur en France.
Bon, moi, j'y pense très fort. Mais donc,
il y a des élections dans pas longtemps, il faut se lancer.
Mais donc, certains vous diront ça marche pas très bien, certains vous diront ils sont en balbutiement. C'est fort probable, certains doivent critiquer.
Pourquoi vous dites ça marche pas très bien? Pourquoi est-ce qu'on serait tenté de dire ça si finalement eux s'estiment heureux?
Eux s'estiment heureux, mais vu de l'extérieur, on a un certain nombre d'ONG qui disent « mais attention, les Népalais sont peut-être pas très bien traités ». Moi, je ne l'ai pas constaté, moi, je ne l'ai pas vu. Mais encore une fois, je suis qu'un deux paires d'yeux, même si on était plusieurs, deux paires d'yeux, on est sûr de rien.
Bah, si le roi était à Oxford, il doit connaître un petit peu, il a des objets de comparaison.
Imaginons. Non, mais encore une fois, tout est subjectif. Ce qui nous a semblé à l'expérience, c'est qu'effectivement, c'était des gens qui étaient plutôt très bien dans leur peau. Et ça, c'est assez rare par rapport à l'ensemble des pays qu'on visite ou qu'on balade. Moi, j'ai des souvenirs. À 16 ans, j'étais dans le Chiapas chez les Lacandons. Ça m'avait beaucoup impressionné parce qu'à 16 ans, c'était des ombres qui passaient dans la forêt et qui nous fuyaient. C'est un tout autre monde. Et c'est un peuple en train de disparaître. Je crois qu'ils sont plus que 500 aujourd'hui.
Vous avez eu la chance de ne pas vous faire capturer.
Non, vous confondez avec la Colombie et des aventurières.
Oui.
Si on fait Sciences Po, c'est pas la même chose.
Bon, voilà, on va faire une petite pause, un petit break musical. On se retrouve après. On va essayer de voir si on peut appliquer le bonheur en France. Terminer de définir le bonheur au Bhoutan. On fait une petite pause musicale et après, on va parler avec Survival International de tous ces peuples, toutes ces populations que vous surveillez, que vous essayez de protéger. Vous nous expliquerez comment vous faites.
Fréquence Terre, la radio nature.
Il est 18h32 à Paris, à Metz, à Thionville et en Corse. Si vous nous écoutez sur Radio Peltre Loisirs sur 89.2 FM ou sur Radio Lycée Montessoro sur 106.7 à Bastia, nous sommes en direct sur Fréquence Terre, sur le salon Planète Durable, et nous parlons du bonheur et des peuples indigènes avec Christian Schuttel, le maire de Janvry, qui s'est rendu au Bhoutan, Bhoutan qui a instauré le bonheur national brut, avec Sophie Bayon de Survival International qui a voyagé pas mal dans le monde et qui a rencontré beaucoup de peuples qui aspirent eux-mêmes au bonheur, mais c'est pas toujours évident pour eux parce que ils sont malmenés, ils sont maltraités parfois. Où est-ce que vous intervenez, dans quelle région vous intervenez?
Alors déjà, Survival existe depuis déjà plus d'une quarantaine d'années. C'est une ONG internationale dont le siège est en Grande-Bretagne. Donc ça veut dire que les chargés de campagne également y sont. Et ensuite se sont créés au fur et à mesure du temps des bureaux nationaux en Europe et également aux États-Unis. Et donc on mène des campagnes en soutien aux peuples indigènes pour défendre leurs droits. Un peu partout dans le monde, il y a beaucoup de peuples partout, sur tous les continents, dans tous les climats et environnements. On va dire principalement en Amazonie, et brésilienne et péruvienne, parce qu'effectivement, il y a une grande concentration de peuples.
Peut-être qu'on peut préciser d'ailleurs la définition, qu'est-ce qu'un peuple indigène.
C'est assez difficile. En fait, il n'y a aucune définition juridique internationale de ce qu'est un peuple indigène. En revanche, il y a des critères qui sont connus depuis les années 70, qui émanent de différents rapports des Nations Unies, et donc qui considèrent qu'un peuple indigène est un peuple qui, historiquement, a un territoire qui a été colonisé, est un peuple qui est également minoritaire dans cet état-là, et que ses propres coutumes, qu'elles soient linguistiques, sociales, économiques, sont différentes des coutumes du reste de la société dominante. Avec également d'autres critères qui sont de manière indivise de partager le territoire, et surtout d'auto-identification, ce qui veut dire que le peuple lui-même se reconnaît indigène, donc se reconnaît, on va dire, distinct et différent du reste de la société dominante.
Donc une prise de conscience de leur statut.
Une prise de conscience de leur statut.
C'est pas évident, ça.
Je pense que ça.
Quand vous disiez, j'ai vu sur votre site par exemple que y a un peuple isolé. Vous invitez d'ailleurs à ne pas aller les déranger. Ils regardent avec curiosité les avions quand ils passent au-dessus de leur tête, avec certainement des croyances qu'on ignore. Comment voulez-vous qu'ils aient pris conscience? Ils doivent se douter qu'effectivement il y a des choses. Mais là, pour eux, c'est le dieu avion peut-être.
Je pense que là, on a essayé de faire... je le remets un peu dans le contexte. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On mène des campagnes pour des peuples qui ont... Pour certains peuples qui ont un contact assez fréquent ou plus ou moins fréquent avec le monde extérieur, et d'autres qui sont totalement isolés du monde extérieur. Et généralement, ces peuples-là, dont la tribu dont vous êtes en train de parler, qui se situe au Brésil, à la frontière avec le Pérou, ce sont des survivants de massacres. Ou des descendants de survivants de massacres qui ont commencé depuis, sans remonter à la conquête, on va dire depuis l'époque du boom du caoutchouc, et qui continuent encore aujourd'hui, qui ont continué dans les années 70, 80, 90, quand sont arrivés les colons, les bûcherons, les fermiers et toutes les compagnies d'extraction, quelles qu'elles soient, pétrolières, minières, forestières, etc. Et donc ces survivants de massacres ont décidé, de manière totalement volontaire, de s'isoler de la forêt. C'est réellement un choix qui leur est propre et volontaire. Donc on sait très bien, on ne va pas les voir, bien entendu. Il est hors de question d'entrer en contact physique avec eux. En revanche, il est nécessaire de prouver leur existence, parce que ça fait des années qu'on mène une campagne pour que leur territoire soit protégé de la déforestation illégale du côté péruvien, et que le gouvernement péruvien nous traitait d'un peu tous les noms, on va dire, en disant surtout que c'était des inventions d'écologistes et qu'ils n'existaient pas.
Ça me fait penser, excusez-moi, je réagis là-dessus, mais c'est quand même terrible de considérer les hommes un petit peu comme du lys Martagon, mais on a souvent entendu parler de cette histoire de l'incinérateur à côté de Marseille, qu'on a fait arrêter de construire, où on a dit stop, il y a des lys Martagon, c'est rare, il faut les protéger. Et ainsi ne se construira pas l'incinérateur de Marseille. Et là, vous dites un peu la même chose. Attention, on a détecté une espèce rare, ce sont des hommes. Ils sont au milieu de l'Amazonie, il ne faut pas les déranger.
Non, pas du tout. Déjà, on ne les a pas détectés. on les connaît. Les médias ont dit qu'on les avait détectés, mais on ne les a pas du tout détectés. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on sait qu'ils sont là, que la FUNAI, qui est le département des affaires indigènes du gouvernement brésilien, a une section qui s'occupe principalement de protéger, de démarquer et de repérer les Indiens isolés qui sont en mouvement assez relatif dans cette partie-là de l'Amazonie brésilienne. Et surtout, il y a d'énormes risques. Ça veut dire qu'il y a une déforestation illégale qui est mais énorme du côté péruvien. Ça veut dire que... C'est 80% des exportations de 70 à 80% des exportations de mahogany, qui est l'acajou rouge, qui est censée être protégée, qui est une espèce en danger et qui est plantée au Pérou, est déforestée de manière totalement illégale.
Voilà, nous recevions sur ce plateau il y a quelques instants une personne qui s'évertue justement à reforester avec les peuples péruviens. Voilà,
je pense qu'on
connaît le problème, on en parlait tout à l'heure.
Voilà, donc c'est juste après, on a dénoncé, on a publié et adressé des rapports aux Nations Unies, à toutes les instances internationales. On a essayé de médiatiser cette situation, d'alerter les gouvernements, et on a eu zéro réponse. Et puis, un jour, la BBC a décidé de partir en hélicoptère avec la FUNAI pour justement les repérer et pour pouvoir les filmer et ensuite nous donner à Survival cette vidéo pour que nous, ensuite, on puisse faire notre travail de médiatisation et de pression sur les gouvernements.
Alors, de quelle manière vous intervenez justement pour les protéger? Vous parlez de pression, de médiatisation. Quel est l'objectif? C'est d'accorder un territoire en bonne et due forme, un titre de propriété à ces personnes pour qu'on les laisse tranquilles?
Oui, principalement, c'est ça. On défend les droits des peuples indigènes de manière générale, mais on s'est surtout rendu compte que la problématique principale, c'était la menace face à leurs droits territoriaux. Et donc, c'était leur territoire en premier qui était menacé par toute la convoitise des ressources naturelles qui s'y trouvent. Et du coup, depuis une quarantaine... Ça s'est réellement créé un peu comme, sur la même base d'Amnesty International. Ça veut dire qu'on mène des campagnes et de sensibilisation de l'opinion publique. Donc on essaie, tant bien que mal, hein, parce que la thématique des peuples indigènes est quand même assez particulière, d'alerter les médias sur ce qui se passe. Et puis ensuite également de faire pression, enfin en parallèle, pas ensuite, de faire pression sur les gouvernements qui violent justement les droits des peuples indigènes. Donc tout ce qu'on fait en fait, nous, c'est de permettre aux peuples indigènes qui n'ont aucune voix et aucune reconnaissance sur la scène internationale de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire entendre leurs revendications.
Alors pourquoi justement ces gouvernements violent leurs droits? En allant sur votre site, j'ai vu que vous interveniez au Canada, en Australie, en Russie. C'est quand même des pays...
Afrique aussi.
En Afrique, mais je veux dire, le Canada, l'Australie, c'est des pays qui respectent... des pays de droit, on imagine. Et alors, pourquoi ils violent ces... On considère qu'ils respectent les droits de l'homme, qu'ils veulent le bonheur de leur population. Et la condition des aborigènes est terrible en Australie. Mm-hmm. Au Canada, les Indiens, mm-hmm. j'imagine, c'est la même chose.
Mm-hmm.
Alors, pourquoi on s'attaque à ces peuples?
Je pense que la problématique est en plus différente dans des pays qui sont un peu plus industrialisés que d'autres. En ce qui concerne l'Australie, par exemple, et le Canada, ça a été vraiment une politique de déculturation de ces peuples-là. C'est-à-dire qu'on les a vraiment parqués dans des réserves. On leur a fait dépendre totalement des aides gouvernementales. On leur a presque quasiment, ou en tout cas implicitement, interdit de pouvoir pratiquer leur propre culture. Et ils se sont retrouvés à ne plus pouvoir chasser comme ils le faisaient, à ne plus pouvoir pêcher, et à avoir à côté d'eux des supermarchés qui vendaient des chips et du coca. Donc il y a un taux d'obésité énorme, il y a un taux
d'alcoolisme,
de drogue, de tous ces problèmes sociaux qui sont vraiment apparus dès les années... à peu près 70, je pense, et qui sont encore là aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que vous avez cité vraiment les campagnes qui ne sont pas forcément les plus actives chez Survival, mais qui font quand même partie de ce qu'on relaie.
Non, mais je
cite ces
pays parce que j'étais étonné qu'en Australie, au Canada, il y ait encore des peuples qui soient autant malmenés. Alors après, bien sûr, vous intervenez en Afrique, en Amérique latine, c'est peut-être des campagnes plus importantes.
Vous en avez recensé combien des peuples autochtones à protéger?
On va dire que les chiffres officiels, c'est assez difficile, mais c'est à peu près 350 millions d'individus qui seraient répartis en environ 8 000 à 10 000 peuples partout, surtout sur toute la planète.
Ouais. 8 000 à 10 000 peuples.
Et ça va de. Avec leur propre culture. Et ça va de peuples qui sont à plusieurs dizaines de milliers de personnes à une tribu dont le seul survivant se trouve en Amazonie brésilienne.
Donc, une tribu d'une personne.
D'une personne.
qui vit tout seul.
Donc c'est pas vraiment une tribu, c'est une personne.
Vous allez à l'échec, là, c'est la fin, là.
Là, c'est foutu. Il y en a beaucoup pour lesquels c'est foutu et sont justement, tous ces peuples-là sont des peuples qui sont justement isolés, qui sont les survivants de massacres. Donc il y a ce peuple, cet homme-là qu'on appelle l'homme au trou, que personne n'a jamais vu. L'homme au trou. Mmh. Parce qu'en fait, il creuse des trous de 2 mètres de profondeur pour cacher ses biens et pour se cacher quand il entendait quelqu'un arriver. Et il est dans une région, dans l'état du Rondônia, au Brésil, qui est encerclée par les plantations de soja, d'élevage de bétail, etc. Mais qui a aujourd'hui un territoire totalement protégé et dans lequel apparemment il ne bouge pour l'instant pas du tout. Mais à côté de lui se trouvent également les Akounsou, qui dans les années 90 devait être au nombre de 300 ou 400 et qui aujourd'hui ne sont plus que 5.
Vous nous citeriez quelques exemples de populations, de peuples autochtones que vous avez réussi un petit peu comme ça à protéger grâce à vos actions ?
Oui. Je pense que le cas le plus emblématique, en tout cas vraiment une des figures emblématiques de survival, c'est une personne qui s'appelle leader et chaman qui s'appelle Davi Yanomami et qui est un des représentants et porte-parole du peuple Yanomami qui vit au Brésil à la frontière avec le Venezuela. Ils sont environ un peu plus de 30 000, 33 000. Ils vivent en isolement relatif, donc ils ont un contact assez peu fréquent avec le monde extérieur. Et dans les années 70, il y a réellement une invasion des orpailleurs clandestins dans leur région.
Chercheurs d'or, donc.
Chercheurs d'or, oui. Et donc, il y a une organisation locale, Yanomami, qui s'est créée. Et avec Survival, on a fait pression notamment sur le gouvernement brésilien pour que leur soit reconnu leur territoire et qu'ils soient surtout protégés. Et ça a été une campagne de longue haleine, hein, puisque c'est que dans 92 que le parc Yanomami a été créé et que les Yanomami ont pu vivre de manière prospère jusqu'à à peu près aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les orpailleurs sont de retour, malheureusement, dans cette région. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a également... Là, on a des victoires vraiment très, très récentes qui ont eu un certain écho médiatique, enfin, en tout cas pour les gens qui s'y intéressent. Notamment une victoire des Dongria Kond, qui est une tribu qui vit en Inde, dans l'état d'Orissa, à l'est de l'Inde. Ils sont environ 8000 et vivent sur une montagne, enfin sur une chaîne de collines, dont une est sacrée pour eux, c'est leur dieu. Et cette montagne sacrée recèle de bauxite, donc d'extrait d'aluminium, et était menacée par le projet d'exploitation minière d'une compagnie qui s'appelle Vedanta Resources, qui est une compagnie britannique, qui comptait faire de la montagne sacrée une mine à ciel ouvert avec l'industrie, avec la raffinerie au pied des collines déjà implantée, déjà une centaine de familles. Et ça a été un combat réellement assez dense. Ils ont été très, très mobilisés. Ils ont organisé des chaînes humaines, des rassemblements. Enfin, eux-mêmes ont réellement été acteurs de cette lutte. Et nous, le rôle de Survival, ça a été réellement ensuite de lancer ça dans les médias. Et en fait, on a été un peu opportunistes. Tout le monde a entendu parler du film Avatar qui est sorti de James Cameron. Et en février dernier, donc il y a un tout petit peu plus d'un an, enfin donc 2010, pardon, on a lancé un appel à James Cameron dans le magazine Variety, donc le magazine cinématographique, en disant à James Cameron, nous avons vu votre film, maintenant regardez le nôtre, et on lui proposait sur notre site internet un documentaire de 15 minutes qui montrait qui étaient les Dongria Kond et la menace qui pesait sur eux. Et en fait, ça a eu un effet et un écho médiatique vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et à force de continuer à en parler et de continuer à utiliser un petit peu tous les recours possibles auprès des institutions, de faire parler d'eux, on va dire. En août dernier, le ministère de l'Environnement a finalement décidé de geler le projet d'exploitation minière. Donc ça a été réellement une grande victoire.
Alors à vous entendre, vous parlez de l'or, de la bauxite, des cultures. C'est la société de consommation qui met en danger ces peuples. C'est nous les responsables ?
Je crois que quelque part, oui. Oui, parce que réellement, leur territoire est menacé par... tous les projets d'exploitation, quelles qu'elles soient, minières, pétrolières, forestières, élevage de bétail, etc., et des choses qui se retrouvent généralement dans les produits qu'on consomme, nous, quotidiennement. Donc, effectivement, on peut dire qu'on a un rôle à jouer. Ce sont des compagnies... Enfin, de toute façon, on a, nous, en tant que consommateurs, les compagnies également, en tant que producteurs, un rôle à assumer. Et les gouvernements eux-mêmes, puisque ce sont eux qui donnent l'aval pour tout projet d'exploitation, quel qu'il soit, sur les terres.
Et alors, est-ce qu'on a un rôle à jouer pour empêcher cela ou pour aider à protéger ?
Oui, Oui, totalement. Je pense qu'en dehors du fait de changer son propre mode de consommation, en tout cas de faire attention à la manière dont on consomme, c'est ce que demande Survival, c'est réellement de mobiliser l'opinion publique et d'écrire des lettres. Ça paraît simple, ça paraît bête, mais ça marche. Quand vous vous dites que le ministre de l'Environnement, en l'espace de quelques jours ou quelques mois, il a reçu des dizaines de milliers de lettres et que ça arrive dans sa boîte aux lettres et que sa boîte aux lettres est remplie tous les jours, on dit que là, il commence à dire il y a une petite préoccupation de la communauté internationale et ça marche. Et c'est réellement grâce à l'opinion publique qu'on arrive à faire bouger les choses.
C'est une émission qui pourrait durer 2 heures. On n'a pas tout ce temps-là parce que le salon ferme à 19h et qu'il nous reste un petit quart d'heure. On aurait pu parler des mentalités de ces peuples, de leur culture, de leurs croyances. Juste une chose peut-être, Christian Schottel, c'est vous nous disiez que à la recherche du bonheur, les Bhoutanais avaient comme culture de faire appel à des astrologues, c'est ça?
Oui, ils font même rien sans l'avis de l'astrologue. Et excusez-moi, ça va être.
C'est-à-dire que quand vous nous disiez tout à l'heure, il y a des concertations sur le quota de touristes qui doit venir. L'astrologue est aussi inclus dans le process?
C'est surtout que on construit pas une maison sans avoir l'avis de l'astrologue sur le lieu, sur la date de construction. Et je vais vous raconter un truc morbide, mais c'est impressionnant. C'est on n'enterre pas un mort sans demander à l'astrologue la date. Et c'est horrible ce que je vais vous raconter, mais au Bhoutan, on enterre les morts dans la position fœtale.
Oui.
Et donc, si tout simplement l'astrologue dit c'est dans 15 jours, on se retrouve avec des morts qui ont une rigidité cadavérique terrible. Et au Bhoutan, il y a des casseurs de morts. Mmh. Et qui sont parfois même de la. Excusez-moi, c'est horrible, mais c'est comme ça. Mais c'est pour dire que ça va au bout de ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'astrologue a dit c'est en 3 semaines, eh ben, on.
On respecte la
pourquoi,
décision.
Pourquoi on le met pas en position fœtale avant qu'il ne se rigidifie?
Eh ben non.
Non, c'est pas leur culture.
C'est pas leur culture. Il y a des casseurs de mort pour leur mettre le
les
corps
mettre en bonne position.
En bonne position. Et Bhoutanais me disait que parfois c'était même un membre de la famille qui était obligé de le faire. Enfin, ça va très très loin dans la démarche. Et on construit pas une maison, on rentre pas dans une maison, on ne se marie pas, on fait pas un investissement sans que l'astrologue. Mais ça, on le retrouve. Dans
beaucoup de cultures, peut-être.
Dans le bassin asiatique, chez les bouddhistes, à peu près partout. Enfin.
Quels sont leurs outils de prévision aux astrologues?
Ah, ça, je ne sais pas, parce que j'ai voulu aller voir un astrologue bhoutanais, mais tout d'un coup, sincèrement, j'ai vu des visages qui se refermaient. Ce n'est pas fait pour nous.
Chez Survival, vous vous intéressez aussi aux mentalités, à ce qui crée l'identité d'une population, ou est-ce que vous vous intéressez seulement aux problèmes et à la façon de le résoudre?
On est assez pragmatique, mais ensuite, effectivement, on est obligé de toute façon de prendre en compte leur propre mode de vie et leurs croyances pour pouvoir satisfaire leurs revendications. Donc oui, par exemple, chez les Guarani au Brésil, on sait l'importance réelle de ce qu'ils appellent leur tekoa, qui est leur territoire ancestral, qui est un lieu où sont un sanctuaire où sont enterrés leurs ancêtres, qui leur sert également de nourriture quotidienne, etc. Donc effectivement, on prend en compte la manière dont vivent ces peuples indigènes et de temps en temps, effectivement, leurs croyances pour pouvoir ensuite en faire état sur la scène internationale.
Christian Schottel, excuse-moi Grégory, peut-être une question, oui
vous... Moi je voudrais rajouter quelque chose à ce qui a été dit tout à l'heure. L'autre jour, je suis rentré dans une boutique de diététique et on vendait du sel de l'Himalaya. Excusez-moi, mais il ne faut pas déconner. C'est peut-être diététique le sel de l'Himalaya, mais on marche sur la tête, quoi. On va chercher de l'acajou au Brésil et on va chercher du sel en Himalaya pour saler notre choucroute.
Qu'est-ce qu'il a comme je sais pas, particularité
sauf d'être très snob peut-être, mais ouais. Quand on en est dans notre société à devoir aller chercher du sel de l'Himalaya alors qu'on est bordé de mer, on est dans une... Excusez-moi, je parle très mal parce que je suis un rural, mais on est en pleine déconnade. Et que si on en est allé chercher du sel en Himalaya, on va piller le bois des uns, l'ivoire des autres. On a cette espèce de schéma où les distances n'existent plus. Parce qu'en réalité, ce qui a préservé tous ces peuples pendant un temps, c'est leur inaccessibilité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et que la distance qu'on n'a plus, elle donne une accessibilité qui fait que maintenant, on va aller leur demander de faire de l'artisanat plutôt que de se faire leurs propres vêtements et après tout qu'ils mettent un jean et qu'on n'en parle plus.
Alors à ce propos justement...
En tous les cas, moi j'ai appris qu'il y avait du sel en Himalaya.
Voilà, déjà. Il est un peu rose, magnifique.
Ah très bien, bon, voilà.
Très prout-prout.
On parlait du bouton qui limite l'accès aux touristes. Sophie Bayon, vous parliez des tribus qui délibérément se coupent du monde pour vivre. Moi, ça me fait penser à ce dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est vraiment ça, la recette, Sophie Bayon?
Moi, j'aime beaucoup cette expression et ça a été l'objet d'un article qu'avait justement écrit Jean-Patrick Razon, qui est le directeur de Survival, il y a quelque temps, au moment des premières photos aériennes de cette même tribu, mais pas des mêmes personnes, qui était en 2008. Qui avait écrit un article qui s'intitulait « Pour vivre heureuse, ces tribus doivent vivre cachées ». Et je ne pense pas vraiment d'ailleurs que ce soit vraiment ça pour tout le monde. Je pense que c'est tout simplement à eux de décider la manière dont ils doivent vivre. Donc s'ils veulent vivre en contact total avec le reste de la société dominante, c'est à eux de choisir. Ce n'est pas à nous ou à qui que ce soit de leur imposer la manière dont ils doivent tout simplement vivre leur quotidien.
Préserver l'identité.
Ouais, j'aurais tendance à dire que le bonheur est plus fragile que le malheur. Et que le bonheur, c'est très fragile, et que en réalité, quand on dit vivons heureux, pour vivre heureux, vivons cachés, on est en train de dire que l'extérieur est dangereux, que nous, civilisation, on est destructeurs. Et c'est vrai que le manque d'humilité qu'on a, une démarche très prétentieuse qu'on a sur tous les thèmes, aussi bien de nos valeurs que de nos actions, est destructrice. Alors, qui vivent heureux et vivent cachés, c'est vraiment, on porte là, on assume toute la responsabilité, nous, dans nos civilisations, de notre côté destructeur, ne serait-ce que par les germes de maladies qu'on inocule, la fièvre jaune et compagnie, qui ont bousillé un nombre de peuples phénoménaux.
Ou l'obésité, comme vous disiez tout à l'heure, l'alcoolisme, c'est des choses que nous, comme vous disiez, peuple civilisé, alors non pas que les autres ne soient pas civilisés.
On a cette prétention-là.
Qu'on amène et qu'on dénature un peu les cultures.
Ah bah oui, et puis c'est vrai, un des problèmes notamment du tourisme, et c'est là où je reviens dessus, c'est que ces peuples isolés ont un système immunitaire qui est juste tout simplement différent du nôtre et qui sont vraiment, vraiment peu résistants aux maladies qui, à nous, nous paraissent communes et qui, finalement, pour eux, leur sont fatales. Et un simple rhume peut décimer la moitié d'un groupe. Et ça s'est passé encore dans les années 80-90 au Pérou. Ça a failli... C'était sur le point de se passer dans les îles Andaman, au large du golfe du Bengale, où il y a beaucoup de tribus qui vivent de manière isolée. Il y a un complexe touristique qui devait se construire. Et là, on sait que ça aurait également été fatal pour eux et que c'était vraiment la disparition de ces peuples-là.
Alors, Christian Schottel, c'est une question que je voulais vous poser. Puis, je pense qu'elle aurait mérité beaucoup plus que 6 minutes pour y répondre. Vous êtes élu.
Personne n'est parfait.
Bah, écoutez, vous l'avez peut-être voulu, hein.
Oui.
Ouais, ouais. Combien avez-vous d'administrés?
Très peu. Je dis souvent que je suis un merdique, puisque j'ai 650 habitants.
Ah, oh, bah, c'est déjà pas mal.
Je suis président d'une communauté de communes de 25 000.
Bon. Ah, bah, voilà. Il y a un petit peu plus autour. Donc, très bien. Alors. Vous voyagez beaucoup, vous l'avez dit au début de cette émission, vous baroudez. Il y a le peuple du Bhoutan qui est un de vos derniers voyages, très privilégié puisque vous y avez mis le prix. Donc c'est vraiment de la conviction. Est-ce que vous vous servez de vos voyages, des expériences, des peuples que vous rencontrez pour en faire profiter au niveau de vos administrés, des personnes pour lesquelles vous avez à mettre en place des règles, des solutions?
Est-ce qu'on peut imaginer un bonheur national brut à janvier?
En France après.
Alors, c'est très vache votre question, parce que je vais bientôt approcher la soixantaine, donc vous êtes en train de me demander si je vais démissionner au profit de mon fils, par exemple. Ça commence comme ça?
Parce que 60 ans, quoi?
Mais j'approche les 60
ans. Comme le roi
ans,
du Bhoutan.
Comme le roi du Bhoutan a démissionné.
Ah, et lui, oui, mais ça, c'est une décision personnelle.
Et alors, je vais vous dire, c'est un gag.
Avant que ça devienne votre modèle.
J'étais conseiller général. Je ne le suis plus. C'est mon fils qui a 30 ans qui l'est.
Bon, très bien, il suit.
Pas mal, quand même.
Ah, il suit c'est papa. Hein, c'est bien.
Non, mais c'est amusant. Parce que, bon, mais écoutez, je ne sais pas. Ça, il faudrait peut-être le demander aux habitants de ma commune si on essaye de distiller ça. En tout cas, comment...
Est-ce qu'il y a des modèles très concrets que vous avez, vous êtes dit, tiens, on va mettre ça en place, je ne sais pas, pour la collecte des déchets, pour l'accès à quelque chose?
Je sais que vous êtes provocateur, mais...
Ce n'est pas mon intention.
Non, mais on sort jamais indemne de voyage, on sort jamais indemne de rencontre. Alors, évidemment, que sur place... Là, on va bientôt fermer.
Ah bah, ce soir, ils sont en avance. Hein. 4 minutes avant l'heure, ils abusent.
Hein. Il fait chaud, il fait beau. Évidemment qu'on ressort avec des expériences et qu'on essaye de les mettre en œuvre. Mais là, encore une fois, le bonheur, c'est inexprimable. C'est par touche. Mais par exemple...
Je ne parle pas que du bouton. Hein.
Évidemment. Et que c'est vrai que sur ma commune, il y a toute une série de petits trucs qu'on met en œuvre collectivement.
Nous y voilà. Alors,
exemples. Alors là, non. Pas 4 minutes.
Je savais que ça allait prendre du temps. Un exemple, très vite. Un exemple.
Oh, je sais pas, moi. Vous venez tous les vendredis, tous les samedis soirs. On appelle ça la table des Gaulois. On a taillé des arbres quand ils sont tombés pendant la tempête de 99. Ouais. On les a fait sécher. On a taillé des arbres en planches et on a fait un restaurant qu'on fait nous-mêmes avec des torches, des flambeaux. On se rôtit un cochon ou un agneau tous les samedis soirs et les gens du village peuvent venir manger. On se fait... Voilà. Mais c'est nous qui le faisons nous-mêmes.
C'est convivial, oui.
Et on se retrouve tous ensemble, enfin ceux qui
la
veulent.
La population suit
Oui.
Il y a du monde ? Il y a combien de monde autour de la table ? Autant que dans le banquet d'Astérix ?
On doit servir 100 couverts par...
Par samedi ?
Par week-end, oui. Comme c'est nous qui faisons tout nous-mêmes, je veux dire. Mais c'est une anecdote, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Bon, alors il va falloir qu'on vous réinvite, Christian Schottel, je crois que c'est clair.
Une petite dernière question, Christian Schottel. À votre retour du bouton, est-ce que votre notion du bonheur a changé ? Est-ce que vous appréhendez le bonheur d'une manière différente ?
Peut-être pas, mais une notion d'une espèce de fatalité des valeurs qui a changé. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a des valeurs qui sont imprimées, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tout d'un coup, tu te dis, mais après tout, si on peut les attraper autrement, et si y a des trucs, alors, avec beaucoup d'humilité, parce qu'il faut décoder, et on le disait avec mon groupe de voyageurs qui est parti avec moi, et qui fait un peu toutes les aventures avec moi, c'est comme un espèce de bon vin, c'est long en bouche, et ce voyage-là, il nous revient doucement avec toute une série de trucs plutôt passionnants dans la remise en question d'eux, et l'insupportable est toujours de quand les gens nous disent oui mais c'est parce qu'ils sont pas nombreux qu'ils peuvent le faire, ce qui est à mon avis une réponse stupide.
C'est ce que j'ai eu en tête aussi. Hein,
mais oui, mais sauf que typiquement si deux personnes arrivent à avoir un raisonnement et vivre avec, 2000 peuvent l'avoir, 2 millions et pourquoi pas plus. Enfin, je veux dire, pourquoi ça se limiterait? Et tout d'un coup, un concept de vie se limiterait à 2 millions. Enfin...
Oui, ce qui est étonnant, c'est ça. C'est la légèreté du processus de décision aussi. Ça a l'air super light. Mmh. Ils y arrivent, tout le monde est content apparemment.
Ça apparaît comme ça.
Sophie Bayon, même question. À travers tous vos voyages, toutes vos rencontres, est-ce que votre notion du bonheur ou en tout cas de la manière de vivre a changé ?
De la manière de vivre, oui, je me suis en fait jamais vraiment penchée sur la question du bonheur, donc je ne serais pas vraiment capable de vous répondre en quelques minutes ou secondes. mais ma manière de voir les choses et de vivre, oui, complètement, de considérer l'autre ou les autres, justement, oui, complètement.
Sophie Bayon de Survival International, merci beaucoup. Christian Schottel, maire de Janvry, qui est allé au Bhoutan, merci de votre présence sur ce plateau de Fréquence Terre en direct du salon Planète Durable. Merci aux auditeurs de RPL en Lorraine, de Radio Lycée Montessoro à Bastia. Merci à Frédéric Benoît de Fréquence Terre.
Merci Grégory Lesca de Fréquence Terre. Merci Guillaume Ploquin de Fréquence Terre.